Vous écoutez RTL.
Jusqu'à 15h, Jacques Pradel sur RTL, l'heure du crime.
Et bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver. C'est une nouvelle édition de l'heure du crime, émission préparée comme chaque jour par Perrine Suquet et Laure Broulard. Aujourd'hui, André Facetta aux manettes techniques de cette émission. Et l'invité de l'heure du crime s'appelle, je le disais tout à l'heure, Jean-Marc Bloch. Bonjour.
Bonjour Monsieur Pradel.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Je le disais, 35 ans de police judiciaire à des postes clés, anti-gang, BRB, état-major de la police, qui est un centre nerveux la police judiciaire. Une de vos dernières fonctions, parce que après il y en a eu d'autres, mais la direction du service de police judiciaire de Versailles. Absolument. Et vous publiez, et merci d'en donner la primeur aux éditeurs d'RTL, vous publiez demain avec la collaboration de Rémi Chancet, qui est là, que je salue également.
Bonjour.
Notre confrère journaliste. Vous publiez au Cherche Midi, des deux côtés du miroir, itinéraire d'un flic pas comme les autres. C'est en fait une occasion, vous avez pris une occasion de revenir, de revisiter finalement ces 35 ans parfois très agités.
Absolument, je raconte avec Rémi le 35 ans de police judiciaire et 35 ans de police judiciaire. C'est quelque chose, on est confronté à un tas de situations tout aussi variées les unes que les autres, confronté à un tas de gens tout aussi différents les uns que les autres. Et il faut s'adapter à chaque fois à ces situations, à ces gens. On ne parle pas de la même manière à un clochard qu'on parle à un ministre, et le matin on peut être face à des clochards et l'après-midi face à un ministre. Il faut à chaque fois s'adapter. C'est un peu un métier de caméléon.
Oui, alors vous faites partie, c'est pas une injure évidemment, des flics à l'ancienne, quoi, parce que quand on lit votre livre, on voit bien que vous ne pensez pas qu'on résout les mystères judiciaires et les mystères criminels dans un bureau avec un ordinateur. Ça y participe, mais l'impression que...
Oui, alors effectivement, c'est un métier qui est fait par des humains, pour des humains, avec de l'humanité. On ne peut pas faire ça qu'avec des ordinateurs, on ne peut pas faire ça qu'avec de l'ADN, on ne peut pas faire ça qu'avec des autopsies. Bien sûr que tous ces systèmes sont des aides à l'enquête, des aides essentielles à l'enquête aujourd'hui, mais avant tout, il faut s'inspirer des circonstances, et je crois que c'est une phrase qui revient pas mal dans ce bouquin, on est confronté à des situations auxquelles il faut s'adapter.
Voilà, il faut s'inspirer des circonstances. Hein, c'est votre formule fétiche, quoi.
C'est un des premiers trucs que j'ai entendu en arrivant dans cette boîte en 1970. Les premières instructions que j'ai eues, c'est inspire-toi des circonstances. C'est extrêmement clair.
Ça veut dire démerde-toi.
Ça veut dire démerde-toi, absolument. Hein, bon, et on apprend effectivement à se démerder.
Alors, ce livre, je ne l'ai pas dit, est préfacé par votre complice de la télévision, à mon confrère Arnaud Poivre d'Arvor. Tous les deux, d'ailleurs, vous venez régulièrement dans l'heure du crime pour nous éclairer sur un certain nombre de mystères criminels concernant des affaires non élucidées. Qu'est-ce que ça a changé dans votre vie, le fait de devenir un personnage de télévision, puisque vous faites un couple d'ailleurs inédit à la télévision, vous et Arnaud Poivre d'Arvor, un journaliste, un flic, et un double regard donc sur les affaires criminelles non élucidées.
Alors oui, c'est vrai que c'est assez original. C'est la première fois, je crois, qu'un flic participe réellement à une émission de télévision, devient consultant, comme il y a beaucoup de sportifs, etc. Ils sont consultants. Moi, j'étais policier consultant. Je suis devenu policier consultant pour une émission de télévision. Alors, ça m'a permis de voir les choses d'une manière différente, parce que je suis pas en charge des affaires, et je décrypte les affaires d'une manière différente. Et je me suis intéressé au sort des victimes plus que je ne le faisais quand j'étais flic. Quand on est flic, on s'intéresse aux victimes. On essaie de les connaître, de les comprendre, parce qu'on sait qu'elles vont nous emmener par la main vers l'auteur.
D'accord.
Donc la victime est un espèce de témoin, témoin mort la plupart du temps, qui nous conduit vers l'auteur. Oui. Quand on fait une émission de télévision, cette victime, on commence à avoir de l'empathie pour elle. Et on a le droit d'avoir de l'empathie. Quand on est enquêteur, faut pas avoir trop d'empathie, sans ça, on est paralysé dans l'action.
Bien
quand
sûr.
On fait de la télévision, c'est pas la même chose. On peut avoir des sentiments, de l'empathie un peu plus, ça devient un peu différent.
Alors, je reviens sur cette liste qui n'est pas exhaustive, évidemment, que j'évoquais tout à l'heure. Évidemment, la traque d'Action Directe, on va parler de l'arrestation de Régis Schley, qui a été un peu votre bête noire pendant pas mal de temps, qui vous a occupé nuit et jour, on peut le dire. On va parler de l'affaire Thierry Paulin, le tueur de vieilles dames, parce que votre livre apporte une information l'impression qu'on n'avait pas. Tout le monde était, enfin moi, le premier d'ailleurs, persuadé que, ben voilà, c'est la brigade criminelle qui était d'ailleurs chargée de l'enquête, qui avait arrêté Thierry Paulin. Or, en fait, ça ne s'est pas tout à fait passé comme ça.
Non.
Alors, on en dit un mot maintenant, on en parlera beaucoup plus longuement tout à l'heure. En fait, c'est vous qui avez pris, une fois de plus, en fonction des circonstances, une initiative qui s'est avérée payante.
On n'a pas pris une initiative, on a été saisi de la dernière affaire qui concernait les faits commis par Thierry Paulin, c'est l'assassinat de la veuve Germont. Et c'est la BRB qui a été saisie de cette affaire, curieusement, alors que toutes les affaires précédentes... J'étais sous-chef de la BRB. Alors que toutes les affaires précédentes, c'était la crime qui les avait.
Ouais.
Et c'est grâce au stratagème qu'on a mis en place, à la stratégie, à la tactique qu'on a mis en place, que Thierry Paulin a été arrêté dans les jours qui ont suivi l'assassinat de la veuve Germont. C'est parce que je crois qu'on a employé des techniques qui sont pas habituels pour les brigades criminelles.
Alors on y viendra, on donnera toutes les explications tout à l'heure, et on entendra d'ailleurs l'interview sur RTL à l'époque du commissaire Jacob, c'est ce commissaire qui a arrêté en pleine rue Thierry Paulin,
finalement. À partir d'une diffusion faite par...
Voilà, exactement. Alors, on va revenir à toutes ces grandes affaires, on va parler de l'affaire Estelle. Vous employez dans votre livre, pour parler de la disparition d'Estelle Mouzin, cette phrase que votre consoeur, le commissaire Daniel Thierry, dont elle avait fait le titre d'un livre qui a eu le prix du Quai des Orfèvres, des clous dans le cœur.
Ouais.
C'est l'expression qu'on emploie quand on n'arrive pas à la vérité.
Ça vient d'une expression anglaise, c'est pas tout à fait, on a adapté ça à notre sauce, c'est pas des clous dans le cœur, ça se situe un peu plus bas, mais pour nous c'est des clous dans le cœur, c'est-à-dire que c'est... Vous savez, quand on fait ce métier, on réussit pas mal d'affaires. Heureusement, d'ailleurs, c'est un peu comme un chirurgien, quand il opère, la plupart du temps, ça marche bien. Puis, de temps en temps, on a des échecs. Et Estelle Mouzin, c'est un échec. Et quand on part à la retraite, quand on arrête de faire ce métier, ce qui reste, ce sont les échecs. C'est à ça qu'on pense. C'est pas, on fait pas cocorico. On pense à ces échecs et on se demande sans arrêt pourquoi on est resté en échec. Qu'est-ce qui s'est pas bien passé?
Est-ce que j'ai fait une erreur?
Voilà. Est-ce que j'ai fait une erreur? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas vu? Est-ce qu'on est passé à côté de quelque chose? Est-ce qu'on n'a pas utilisé les moyens qu'il fallait utiliser? Ou alors, est-ce qu'on pouvait pas, à ce moment-là, réaliser cette affaire? On sait pas.
Voilà. Et après, puisque vous avez été au départ de l'affaire et ensuite, vos activités vous ont appelé, je crois, ailleurs.
Absolument.
Mais depuis, il y a eu des pistes qui ont été envisagées. L'une d'entre elles, d'ailleurs, le père Éric Mouzin considère que peut-être cette piste n'a pas été fouillée assez. C'est l'éventuelle implication de Michel Fournier. Mais ça, on va en parler tout à l'heure. On fait une première pause dans l'émission. On se retrouve tout de suite après. Et là, eh bien, on va plonger avec vous au cœur de l'action.
Retour de l'heure du crime, Jacques Pradel sur RTL.
L'invité de l'heure du crime, Jean-Marc Bloch, pour ce livre qui paraît demain et dont il nous donne la primeur aujourd'hui, livre qui paraît aux éditions du Cherche Midi, des deux côtés du miroir, itinéraire d'un flic pas comme les autres, un livre écrit avec la collaboration de Rémi Chancé. Alors, on entre directement dans l'action, d'ailleurs vous faites que ça tout au long de ce livre. On va revenir...
C'est un peu mon métier. Hein.
Voilà, oui. On va mettre le curseur là sur l'année 1983, très précisément le 11 octobre 1983, ce jour-là, on apprend qu'un chirurgien renommé de la région bordelaise, François-Xavier Arand, a été retrouvé ligoté dans sa baignoire à Pessac, près de Bordeaux. Une mort d'ailleurs horrible, puisque c'est la victime qui s'est étranglée elle-même en tentant de se libérer de ses liens. Sa jeune épouse, Aline, a disparu. C'est donc le mystère total. Et le lendemain, sur RTL, Georges Bourdoiseau passe en revue les différentes hypothèses des enquêteurs.
François-Xavier Arand faisait partie de ces gens à qui tout semble réussir. Appartenant à une famille de médecins bordelais, il était en passe d'accéder à son tour à la renommée par ses talents de chirurgien. Il habitait une chartreuse, comme on dit ici, un magnifique hôtel particulier caché dans un parc au centre de Pessac. Et il y a 8 ans, il avait épousé une jeune consoeur, Aline. Tous deux vivaient dans la plus parfaite entente. Alors bien sûr, on ne s'explique pas comment ce jeune homme, dont la réussite et le bonheur paraissaient poussés jusqu'à la caricature, a pu finir dans une baignoire, bâillonné d'une serviette éponge et étranglé par un câble électrique. Crime crapuleux, c'est peu probable, il n'y a pas eu de vol. Drame passionnel, c'est invraisemblable aussi pour ceux qui connaissaient le couple. Et puis surtout, il y a la disparition d'Aline. La jeune femme est introuvable, ainsi d'ailleurs qu'une des voitures de la maison, une BMW blanche. Qui a tué le docteur Arand? où se trouve sa femme, ces deux questions sont pour l'instant sans réponse, car les enquêteurs ne disposent d'aucun indice. En fait, on recherche activement la voiture dont le signalement et le numéro ont été diffusés à toutes les gendarmeries de France. En attendant, la chartreuse de Pessac garde son secret.
Ah, c'est une affaire qui va vraiment faire la une de l'actualité pendant plusieurs semaines, parce que l'auteur des faits va être finalement identifié. Il s'appelle Lionel Cardon. En quelques heures, il devient le nouvel ennemi numéro un, public numéro un. Et sa cavale va l'amener dans la région parisienne. À la suite d'un contrôle de routine dans le bois de Boulogne, il va abattre froidement un motard de la police. Et trois jours plus tard, il va prendre en otage, en plein Paris, dans son appartement du 16e arrondissement, une avocate, maître Nicole Dreyfus, et une journaliste qui se trouve là, qui s'appelle Annette Kahn. Échange de coups de feu avec des gardiens de la paix qui ont été alertés par les gens de la rue. C'est la panique, Jean-Marc Bloch. Vous faites quoi à ce moment-là? Comment vous apprenez tout ça?
Alors, à l'époque, je suis l'adjoint de Claude Cancès. On est tous les deux patrons de la BRI, de la brigade de recherche et d'intervention, de la brigade anti-gang, et on est chargé des affaires de prise d'otage. Et c'est une prise d'otage, donc on se déplace sur les lieux, et effectivement, il y a un équipage de gardiens de la paix qui est arrivé, qui a sonné à la porte s'est ouverte et Cardon a ouvert la porte avec maître Dreyfus sous la menace d'une arme. Okay. Un des gardiens de la paix a lâché une rafale de Mat 49, c'est une mitraillette qui part dans tous les sens, oui. Ça a rasé la tête de maître Dreyfus, de Cardon, etc. Oui. La porte s'est refermée et là c'était vraiment la vraie prise d'otage. Oui. Annette Kahn arrive, est prise en otage aussi et nous voilà dans une situation assez compliquée avec ce type qui est effectivement très dangereux, qui est en cavale, qui vient de tuer deux personnes à Bordeaux, qui a tué un motard de la police parisienne. Ouais. Donc, il faut négocier avec lui parce que les prises d'otages, c'est d'abord de la négociation. Ouais. Seulement, ce qui se passe, c'est que le bouclage en bas de l'immeuble n'est pas bien fait et qu'il y a un va-et-vient dans cet escalier de l'immeuble qui est innommable. C'est
beaucoup
invraisemblable.
Beaucoup de journalistes, hein, évidemment.
Énormément de journalistes. Tous la hiérarchie policière locale, les commissaires du quartier, etc. arrivent. Ouais. Il y a un appartement en face de l'appartement où est la prise d'otage, dans lequel il y a une vieille dame qui est alitée, et il y a cette domestique, et on a cet appartement à notre disposition pour négocier. Seulement, tout le monde rentre dans cet appartement, la domestique sert le thé, les petits fours, on se croirait dans une réception mondaine. Oui. C'est complètement contrasté, comme souvent dans ce genre de situation. On est dans le tragicomique. Oui. Moi, je suis à ce moment-là avec le préfet de police, oui, dans l'appartement du dessous, pour essayer de voir comment est fait l'appartement, s'il faut investir. Oui. Donc, on refait les plans de l'appartement du dessus. Oui. Le préfet de police, qui est décédé aujourd'hui, mais qui est assez nerveux, assez agité, et voudrait qu'on intervienne tout de suite. Ouais. On lui dit que non, c'est trop dangereux, qu'on peut pas, qu'il faut laisser un peu de temps s'écouler, qu'il faut que la pression baisse, comme toujours dans ce genre de situation. Enfin, c'est assez confus. La situation est réellement confuse à ce moment-là. Il y a trop de journalistes, il y a trop de monde dans cette cage d'escalier, il y a trop de monde dans cet appartement qui est en face.
Et vous faites quoi? Vous poussez des coups de gueule?
Alors, on essaie d'évacuer les gens, mais une fois qu'ils sont rentrés dans l'immeuble, il n'y a plus rien à faire pour les faire sortir.
Si vous leur dites que c'est dangereux, il peut sortir avec son arme.
Trop compliqué. Donc, on essaie de négocier en repoussant les gens le plus possible dans l'appartement qui est en face et qui devient un vrai salon de réception. C'est assez curieux. C'est cocasse. On est confronté. D'un côté, il y a une prise d'otage. De l'autre, il y a une réception mondaine. C'est à peu près ça. Et on est entre les deux.
Ouais. Alors, c'est là où votre devise prend tout son sens.
Alors, il
qu'est-ce
faut s'inspirer.
Vous faites en fonction des circonstances.
Il faut s'inspirer des circonstances. Ouais. Le procureur de la République, le chef de la 8e section de l'époque, Laurent Davenas, négocie avec Cardon parce qu'il connaît bien Annette Kahn. Ouais. Alors, il se trompe d'ailleurs sur le nom Cardon de temps en temps.
Qui est la journaliste qui était prise en otage.
Ouais. Il se trompe sur le nom Cardon, Monsieur Cradoc, etc.
C'est pas bon.
Ça calme pas Lionel Cardon, etc. Puis au bout d'un certain temps, comme toujours dans ce genre de situation, Cardon n'a plus qu'une peur, c'est de mourir. Hein. Donc il veut se rendre, mais alors là, on négocie sur les circonstances de sa reddition. Ouais. Est-ce qu'on rentre armé, pas armé? Donc on lui promet qu'on va rentrer non armé, que si lui dépose son arme, etc. Il y a toujours une prise de risque à ce moment-là. C'est Cancès qui prend ce risque à ce moment-là, qui dépose son arme et qui lui dit « je suis pas armé, moi je suis derrière Cancès, on est plusieurs à assurer sa sécurité ».
Là, l'adrénaline est forte.
C'est des moments extrêmement forts. Bon, on arrête Cardon, les choses se passent très bien. Ce qu'on n'avait pas prévu, c'est que des journalistes s'engouffrent avec nous dans l'appartement où avait lieu la prise d'otage et bombardent toute cette photo, et tout ça apparaîtra dans Match le surlendemain ou le lendemain, et là on va prendre une ramonée, parce que comment ça se fait que des journalistes étaient sur place? Ben ça, on n'y pouvait rien, on n'a pas pu maîtriser ce genre de situation. Voilà. On maîtrise rarement tout.
On comprend que c'est le genre de souvenir qui reste longtemps.
Mais c'est un souvenir, oui. Ouais. C'est une prise d'otage. Alors, on est à la fois, comme souvent dans ce genre de situation, dans une situation d'extrême danger, avec quelque chose de presque comique à côté.
Ouais. Alors, parmi les journalistes, il y avait un journaliste d'RTL, Brice Barillon. Et Brice Barillon, le 24 novembre, en direct sur RTL, raconte la fin de la prise d'otage.
Ça y est, c'est fini. Lionel Cardon vient de se rendre dans l'appartement. Vous le savez, depuis une vingtaine de minutes, il menaçait de se suicider. Finalement, le commissaire Cancès de la brigade de recherche et d'intervention a réussi à le convaincre de jeter son arme. Lionel Cardon vient de se rendre. On s'agite beaucoup, Rue Nicolo. Je pense que dans un instant, j'aurai des précisions. Pour l'instant, donc, l'affaire est terminée, semble-t-il. L'avocate est saine et sauve. Un énorme camion blanc s'est avancé devant la porte et Lionel Cardon, entouré, vous l'imaginez, par une foule de policiers, a été emmené à l'intérieur et je pense, il vient de quitter les lieux il y a 30 secondes, je pense que maintenant il va être acheminé jusqu'au quai des Orfèvres et nous vous donnerons bien entendu aux plages de 20h tous les détails sur finalement la fin donc de cette prise d'otage qui a duré presque 8 heures.
Et le 16 avril 1986, Lionel Cardon sera condamné à la réclusion criminelle à perpétuité par la cour d'assises de Paris pour ses meurtres et notamment pour le meurtre du brigadier Hochard, qui était ce malheureux motard de la police nationale qui avait effectué ce contrôle de routine en fait dans le bois de Boulogne et qui a perdu la vie. Une pause et on retrouve Jean-Marc Bloch avec, j'allais dire, une autre aventure. Elle a duré pas mal de temps, celle-là, c'est la traque d'Action Directe.
Retour de l'heure du crime, Jacques Pradel sur RTL.
Des deux côtés du miroir, c'est le cas de Jean-Marc Bloch, qui a pendant 35 ans gravi tous les échelons et été à des postes d'observation dont on parlait tout à l'heure, absolument privilégiés dans le domaine des enquêtes criminelles. C'est le titre de son livre qui s'intitule donc « Des deux côtés du miroir », qui va paraître aux éditions du Cherche Midi demain. On revisite un certain nombre de grands moments que vous évoquez dans le livre, Jean-Marc Bloch. Et tout de suite, on va mettre le curseur maintenant en 1984. 15 mars 1984, on va d'abord écouter un document RTL, puis après vous allez nous donner, nous dire ce qui s'est passé de l'autre côté du miroir, si j'ose dire. Ce jour-là, ce 15 mars 1984, on apprend l'arrestation d'un des hommes les plus recherchés de France, un membre d'Action Directe, il s'appelle Régis Schleicher, c'est un des chefs présumés du groupe Action Directe. Sur RTL, écoutez les explications que donnait à l'époque Éric Brocard.
Coup de filet antiterroriste de la police, une dizaine de personnes suspectées d'appartenir au mouvement Action Directe ont été interpellées hier soir à Avignon. Parmi elles, et c'est une certitude, nous vous l'avons annoncé dès 20h, l'un des principaux responsables du mouvement Action Directe, Régis Schleicher, qui avait pris en otage avec deux de ses complices il y a 2 jours à Bruxelles, un inspecteur de police afin de protéger sa fuite.
Alors là, c'est la fin de l'histoire, l'épilogue. En fait, c'est la fin d'une longue traque menée par beaucoup de services de police, mais dont le vôtre à l'époque.
Alors oui, absolument. La BRI, la brigade anti-gang, avait été engagée sur la traque d'Action Directe depuis les années 82. Alors que c'était pas sa vocation initiale, puisque sa vocation, c'est plutôt le grand banditisme. Mais comme il n'y avait aucun service spécialisé pour faire les filatures dans ce genre de situation, ces circonstances, le directeur PJ de l'époque avait dit à la BRI, avait demandé à la mairie de faire ce genre de
travail. Vous occuperez des filatures.
Vous occuperez de tout le terrain en ce qui concerne Action Directe pour essayer de retrouver les membres actifs d'Action Directe dont faisait partie Schleicher. Alors ça faisait donc plusieurs années qu'on était derrière ces gens-là et c'est des gens extrêmement compliqués qu'on connaissait mal, qui n'agissent pas du tout comme les voyous de droit commun, qui sont plus retors et probablement plus intelligents, dont la motivation, l'unique motivation n'est pas l'argent. Donc c'est plus compliqué, c'est plus subtil. Donc Régis Schleicher, ça fait longtemps qu'on le cherchait, il nous avait échappé à Levallois, etc. Et puis là, en suivant une libraire anarchiste de l'époque qui s'appelait Eliette Bess, la Mamma, on est arrivé dans un premier temps vers Strasbourg, où effectivement Schleicher a rejoint Eliette Bess à Strasbourg, mais le dispositif qui était en train n'a pas pu engager la filature comme il fallait. Ils sont allés en Allemagne, de l'autre côté du pont qui sépare la France de l'Allemagne. Et on n'a pas pu les suivre, on savait pas si on pouvait aller en Allemagne ou pas. À ce moment-là, j'ai rejoint toute l'équipe avec des voitures, avec un tas de trucs. On les a vus repartir du côté français. On s'est retrouvés un dimanche dans les Vosges, derrière eux, sans pouvoir les interpeller. Nos radios passaient pas. Puis on connaissait pas du tout les Vosges. Nous, on est parisiens, banlieue parisienne.
Et en race campagne, c'est beaucoup plus difficile.
Le massif vosgien, aux sorties d'église. En fait, c'était une vraie catastrophe. Oui. On les paume, la maman revient.
Je vous interromps. Il y a combien de membres de la BRI, là, qui sont sur ce genre de filature?
On était 20-25. À peu près.
Avec des voitures, avec des radios.
Des radios, mais pas adaptées à la topographie des lieux. Des voitures avec des plaques en 75. Enfin, c'était pas l'idéal. Tout ça allait pas très bien dans une région qu'on ne connaissait pas. Donc, c'est un dimanche soir. Elle revient, elle reprend le train à Metz. Ouais. C'est là où d'ailleurs Schleicher prend en otage en Belgique, un policier belge, alors qu'il va rendre la Toyota de location qu'il devait louer en Belgique, etc. Enfin, c'est vachement compliqué. La maman, elle rentre chez elle, on se dit, bon, elle va pas ressortir, on va attendre demain, on va avoir le temps d'aller se coucher un peu. Ça faisait quand même 3 ou 4 jours qu'on était partis tous de chez nous, sans rien, sans valise, sans mallette, rien du tout, puis il y a un mec de la BRI, c'est Moreau, qui dit, on devrait quand même continuer à la surveiller, la vieille, parce que peut-être qu'elle va ressortir. Et manque de bol, on a du bol, elle ressort dix minutes après. Moi, j'étais à ce moment-là, j'étais en train de rentrer chez moi avec ma voiture, et j'entends à la radio, elle sort. Je m'arrête, j'étais près de la gare de Lyon, demi-tour, une petite filoche est prise, et elle va à la gare de Lyon. Elle me voit à la gare de Lyon, elle prend un billet de train pour Marseille. Donc, on monte tout un dispo, une partie du dispo dans le train, une partie du dispo en voiture.
En voiture qui descend, qui arrive même avant le TGV,
Il n'y avait pas de TGV à l'époque.
Il n'y avait pas de téléphone portable.
On descend de Paris, Marseille à 200 à l'heure. On se fait arrêter par des motards. On est obligé de négocier avec les motards. C'est assez compliqué. On arrive à Marseille, mais elle n'est pas descendue à Marseille. Elle est descendue à Avignon. Donc, le dispositif à la gare Saint-Charles à Marseille, il sert à rien. Ouais. On remonte à Avignon et les fonctionnaires qui étaient dans le train ont réussi à assurer la filoche avec des radiotaxis à Avignon. Ils ont quasiment réquisitionné les 3 ou 4 radiotaxis à la gare d'Avignon. Ils ont fait la filature d'Eliott Bess, qui est arrivé au Pontet, dans une maison au Pontet, un peu isolée, un peu à l'écart d'Avignon, un peu isolée au bord d'une 4 voies. Donc on rejoint nos collègues, on refait tout un dispo, on est une vingtaine de la BRI, on met des planques, etc., pour ne pas perdre de vue cette maison. Donc, 24 heures sur 24, on surveille la maison. Là, on m'envoie des renforts de la BRI de Nice, de la BRI de Lyon, des gens que je connaissais.
Mais on est vraiment de l'autre côté du miroir, parce qu'on n'imagine pas ça.
C'est assez compliqué, c'est une vraie gymnastique. On s'installe dans un hôtel à Avignon, c'est l'hôtel Bristol. Le patron de l'hôtel comprend pas du tout. Il y en a qui se lèvent à 3 heures du matin, d'autres qui partent à 6. Les chambres, ils savent plus quand ils vont faire le ménage, ils savent pas qui on est, ils savent pas ce qu'on fait. C'est assez marrant comme ambiance. C'est une ambiance assez sympa pour nous, d'ailleurs, parce que on est dans l'aventure, la vraie aventure.
Et vous savez que Schleicher est dans cette maison,
on ne sait rien du tout. On sait que la maman Eliott Bess est dans cette maison. C'est visiblement tout. Elle attend quelqu'un. Elle attend Schleicher, elle attend Bouillon, elle attend Ménigon. On ne sait pas qui elle attend, mais c'est évident qu'elle attend quelqu'un. Et 2 jours après, je crois, une borgnotte, c'est le flic qui en planque à la gare d'Avignon, nous dit, je crois que Schleicher vient de descendre du train, c'est lui, j'ai la photo, je pense que c'est lui, donc je rameute toutes les troupes, on commence la filoche dans Avignon, c'est effectivement Schleicher, il est avec la mama, il a les deux mains dans les poches, comme je le connais, enfin on le connaît pas mal, les deux mains dans les poches, en général, il y a un flingue d'un côté, une grenade de l'autre, donc dans la rue, je leur dis, c'est peut-être pas bon d'intervenir, on connaît pas bien Avignon, puis il y a du monde dans les rues, on va le laisser aller dans cette villa du Pontet, là-bas, puis là, on va les encercler, comme les Romains, et puis ils vont sortir. Voilà. Ils rentrent dans la maison, tous les deux, au Pontet, ils sont là, on met les gilets pare-balles, on commence à s'équiper, et ils ressortent. Eliott Bess et Schleicher ressortent, et ils s'en vont dans la campagne, ils traversent la 4 voies, et les voilà dans les champs, et ils disent, non, c'est pas possible, ils vont encore nous échapper.
Oui, parce que suivre des gens à ce campagne,
là, on peut pas. Là, on peut pas, c'est pas possible, ils sont tout seuls dans les champs. Et coup de bol, ils font demi-tour. À ce moment-là, on a presque des instants homicides, cache pas que... et ils font demi-tour. Ils font demi-tour, ils reviennent dans cette maison. Là, on encercle la maison, la BRI de Lyon, la face action, nord, etc. Et on le voit qui tourne de fenêtre en fenêtre. Il regarde, il voit qu'on est nombreux, il quitte sa chemise. Il sort torse nu, les bras en l'air. Il se couche dans la première flaque de boue qu'il trouve dans l'allée. La mama se planque, se couche sur lui, en disant « Ne le tuez pas, ne le tuez pas !» On ne l'a pas tué, on l'a arrêté comme ça, dans de bonnes conditions. Et pour lui, et pour nous.
Voilà. Donc, vous parliez de la Mama.
Il est sorti de prison il n'y a pas très très longtemps.
Oui. Vous parliez de... Bah, il s'en souvient aussi, comme vous.
Hein. Oui, absolument.
Mais vous parliez de la Mama, et vous, il paraît qu'on vous surnommait le papa. Mais on va dire pourquoi dans un instant.
L'heure du crime sur RTL.
Alors Jean-Marc Bloch, dans votre livre qui paraît demain, des deux côtés du miroir, au milieu des braqueurs, des proxénètes, des terroristes, il y a un personnage qui apparaît, enfin deux d'ailleurs, mais Serge Gainsbourg, souvent accompagné de son copain Jacques Dutronc. Vous allez nous expliquer pourquoi dans un instant, mais c'est vrai que Serge Gainsbourg a été à un moment, et malheureusement pour lui, il s'en serait bien passé, dans une affaire qui aurait pu très mal se terminer. Il y avait des gens qui voulait enlever sa fille qui à l'époque avait 14-15 ans, qui, Charlotte Gainsbourg. Et le 10 mars 1987, on va entendre sur RTL Serge Gainsbourg au micro de Thierry Demézière dans le journal de 22h. Pourquoi ? Ben, il est soulagé, il sort du 36 quai des Orfèvres à la suite de la plainte qu'il avait déposée pour tentative d'enlèvement sur la personne de Charlotte Gainsbourg.
Eh bien, ma première réaction au petit gars, c'est que je suis un garçon qui a déjà eu une crise cardiaque et puis le mec de la 5e brigade criminelle m'ont mis au parfum et m'ont dit qu'il n'y avait plus de danger, voilà. Sinon, je pense que j'y passais moi. C'est moi qui y passais. Mais les 4 lascars, je les ai vus, c'est des mecs très, très classe. Hein. C'est d'autant plus dégueulasse. Et moi, je vais prendre un mec pour un parti civil et je vais leur mettre un max, sans vaseline. OK ?
Voilà, donc Serge Gainsbourg. Alors, il a été...
C'est du Gainsbourg, pur jus. Il y a pas de...
Comment il a déboulé
pas de problème.
36, il a déboulé bien avant qu'il y ait ce problème.
Alors, il y a eu un projet d'enlèvement à l'encontre de sa fille Charlotte. Oui. Et les types qui voulaient commettre cet enlèvement avaient volé des armes déjà au commissariat de police, au commissariat central du 5e arrondissement. D'accord. C'était la 5e DPJ qui avait été saisie de ce vol d'armes. D'accord. Et qui ont arrêté les 4 types qui avaient volé ces armes. D'accord. Et c'est comme ça qu'ils sont
on
arrivés.
On a appris que c'est eux qui avaient le projet d'enlever...
Gainsbourg habitait sur le ressort du service dans lequel je travaillais à l'époque, la 6e DPJ. Il est venu me voir, me parler de ce projet d'enlèvement, etc. Oui. Évidemment, avec Gainsbourg, on a bu un coup, ça peut pas se passer autrement. Et c'est un type extrêmement chaleureux, extrêmement sympathique. Oui. Donc, il a commencé à prendre ses habitudes à la 6e division de police judiciaire, oui, dont j'étais à l'époque patron par intérim, et il venait me voir assez régulièrement. Puis quand il y avait un anniversaire, un pot, bah, il venait les bras chargés de
mais à vous de lire, ce qu'il fallait. À vous lire, il y a souvent, à l'époque, en tout cas, des occasions. Hein.
Alors, il y avait des
c'est
occasions.
C'est pas un mariage, c'est un...
Alors, c'est vrai que la police était une espèce de grande famille et on fêtait les événements familiaux au sein du service. Ouais. Maintenant,
c'est un moyen d'évacuer aussi le stress.
Alors, c'est un moyen d'évacuer le stress. Ça se faisait dans les hôpitaux, dans les salles de garde, etc. Ouais. C'était une tradition à l'époque. Hein. Moi, j'aime autant, d'ailleurs, que les fonctionnaires boivent un coup au service plutôt que dans les bars alentours. Quand ils boivent dans les bars alentours, on voit ce que ça donne. Ils peuvent ramener une canadienne, c'est pas bon. Tant que ça se passe au service, on contrôle à peu près la situation. Oui. Je dis bien à peu près, pas tout, mais on la contrôle à peu près. Bon, enfin bref, toujours est-il que Gainsbourg était devenu un peu un habitué, presque un peu trop un habitué.
Il venait avec Dutronc, de temps en temps.
J'allais bouffer avec lui à midi, de temps en temps, on sortait ensemble le soir. Et le soir, il est arrivé un soir, à, je sais pas, 3 ou 4 heures du matin, qui me disent, toi, t'as un vrai métier, faut que tu rentres te coucher.
Mais ramène-moi d'abord chez moi.
Mais ramène-moi d'abord chez moi, absolument.
Parce que c'était voilà, classe donc... quand même d'arriver chez lui avec la.
Mais
avec
c'était, deux, avec c'était une époque assez sympa, les bouffes avec Gainsbourg Dutronc, c'était quand même sympa.
Voilà, c'est pour dire aussi que dans ce livre de souvenirs, il y a des affaires très graves, bien sûr, et on va y revenir dans un instant avec l'arrestation du tueur des vieilles dames de Paris. Mais il y a aussi des moments comme ça, et qui justifient d'ailleurs, une fois de plus, je répète, le titre. Des deux côtés du miroir. On se retrouve dans un instant.
Retour de l'heure du crime, Jacques Pradel sur RTL.
C'est la dernière partie de l'heure du crime. Mon invité Jean-Marc Bloch, qui pendant 35 ans est allé à des postes d'observation privilégiés, a occupé des postes d'occupation privilégiés, donc à la BRI, à la BRB, à l'état-major de la police judiciaire, à la police judiciaire de Versailles. Je disais tout à l'heure qu'il n'y avait pas que des histoires qui ont fait la une de l'actualité. Bon, on va en parler tout de suite. Il y a un personnage, et on sent qu'il y a une sorte de tendresse dans vos propos. Ouais. On n'a pas de son, je vous le dis tout de suite, pas d'archives sonores. Non. Vous l'avez appelé le solitaire, avec ce surnom que vous lui donnez dans le livre, le salarié du braquage.
Ouais, c'était le salarié du braquage. C'est un type qui a commis plus d'une centaine de vols à main armée dans des banques, hein, dans des établissements bancaires, pendant 12 ans, je crois. Plusieurs services étaient saisis.
Là, mais il rentrait seul,
Il rentrait seul, il repartait seul.
Ouais.
Il demandait à la caisse, plutôt poliment, sans violence. Ouais. Et les caissiers qui ont...
À visage découvert.
Grimaient. Hein.
Ouais.
Des fois à visage découvert, mais il était grimé quand même.
Ouais.
Les caissiers qui avaient pour instruction, d'ailleurs, à cette époque-là, de donner l'argent, parce que les banques ne voulaient pas qu'il y ait trop de victimes.
Ouais.
C'est un peu légitime. Donc, ils repartaient avec des sommes plus ou moins importantes.
Ouais. Mais plutôt moins que...
C'était pas des gros braquages, c'était des braquages de caisse. Il allait pas dans les coffres, rien du tout.
C'était
Ça durait deux minutes, trois minutes.
Ouais.
C'était l'équivalent aujourd'hui de 2000, 3000 euros, enfin c'est à peu près, hein, son truc moyen.
Ouais.
Alors, ça a duré pendant 12 ans. De temps en temps, il faisait deux braquages dans un mois. Puis après, il n'y avait plus de braquage pendant 6 mois. Alors, on se disait, il est malade. On s'était attaché à lui sans le connaître. Oui. C'était presque virtuel.
Il n'avait pas d'information, des indices.
Rien du tout.
Ouais.
Puis plusieurs services, les affaires étaient morcelées entre plusieurs services, Versailles, Paris, plusieurs services parisiens. Puis un juge qui s'appelait le juge Zamponi, qui a voulu rassembler toutes ces affaires et les filer à la BRB
à laquelle
je faisais partie à l'époque. Et on a travaillé sur ce solitaire en essayant de voir tout, ce qu'il n'avait pas braqué. Et on s'est aperçu qu'il n'avait pas braqué des sociétés générales dans les Hauts-de-Seine.
Alors vous dites,
il doit avoir un compte dans une société générale des Hauts-de-Seine. Donc, on diffuse son portrait robot, tout ce qu'on avait sur lui, à tous les directeurs d'agences de société générale des Hauts-de-Seine. Et par un coup de chance extraordinaire, un directeur d'agence vient nous revoir en disant « J'ai bouffé au restaurant à Évry ». Il n'y a pas très longtemps, je connais bien le patron du resto, je lui ai montré la photo prise par une caméra de banque, et il me dit, ce type, je le connais, il est venu déjeuner dans mon restaurant.
Alors ça, un an avant. Hein,
oui, absolument. Ouais. Donc c'est pas du tout notre logique, elle est complètement foutue à plat, mais ça fait rien. On arrive par un moyen très détourné à peut-être identifier quelqu'un. On envoie des types dans ce restaurant. Le type, effectivement, il est physionomiste parce qu'il fait des portraits. Il est portraitiste.
Ah,
donc c'est vrai qu'il a une mémoire, absolument.
D'accord.
Il a une mémoire des figures.
Ouais.
Il se souvient à peu près dans quelle table il était et qu'il avait payé par carte bancaire. Donc on épluche tous les registres, etc.
Ah, mais ça, c'est un travail de Romain.
C'est un travail de fourmi.
Ouais.
Et on identifie, je sais pas, une cinquantaine, une soixantaine de personnes possibles. On en élimine un certain nombre.
Ouais.
Et on commence à mettre borgnotte qui a quoi ressemblent les gens qui restent.
Ouais.
Et on tombe sur un type, le solitaire. Il sort de chez lui, il habitait à Évry. Il arrive cours de Vincennes. Là, on hésite. Est-ce qu'on le laisse encore cavaler un peu pour le faire en flaque sur un braquage ou est-ce qu'on l'interpelle tout de suite?
Ouais.
Là, je suis à la radio, je dis au mec, bon, allez, vous le serrez, on serre.
Ouais.
Il est serré cours de Vincennes, il est ramené à la BRB et on discute avec lui. Alors là, il est presque fierot, il est content d'avoir nargué les flics pendant 12 ans. Il avait une certaine...
12 ans, attendez, 12 ans.
Il était quand même un peu fier de lui. Donc, il nous raconte assez facilement qu'effectivement, quand il a eu 18 ans, il s'était fait arrêter pour un vague cambriolage, qu'il avait fait de la prison, il avait été lourdement condamné.
L'école
qu'en sortant
du
de prison,
crime,
ouais, il savait pas quoi faire. Il a fait un premier braquage avec une arme factice, ça a marché. Il en a fait deux, trois, ça marchait. Il a rencontré une nana, il a vécu avec elle. Elle avait deux enfants, il a élevé les deux enfants.
Ouais.
Quand il faisait un braquage qui rapportait 3 ou 4 000 euros, il lui faisait croire qu'il était représenté en pinard. Donc il partait tous les matins. Il partait tous les matins à 8h de chez lui. Il partait de chez lui à 8h tous les matins. Il rentrait le soir vers 20h. Il faisait travailler les gamines. Il ramenait l'argent à la maison. Quand il faisait un braquage qui rapportait 1000 euros, il faisait deux braquages dans le mois pour avoir un salaire à peu près normal. S'il faisait un braquage qui lui rapportait 10 000 euros pendant 6 ou 7 mois, il braquait plus, ça lui suffisait. C'est comme ça, c'est en n'étant pas gourmand que ça a pu durer, en étant seul et pas gourmand. Ce type a été en garde à vue. Je sais pas combien il a été condamné. Il a forcément été condamné. Mais c'est vrai Il y a presque une certaine tendresse, une certaine sympathie vis-à-vis de ce type, qui était le vrai salarié du braquage.
Braquage, voilà. Exactement, qui portait bien son...
Et qui était un gentil papa, qui était un gentil mari, un gentil papa, et dont personne ne se doutait de la manière dont il gagnait.
Et avec un flingue factice.
Alors, on a toujours... Bon, c'est un flingue factice. Il n'y a jamais eu de coup de feu de tiré. À mon avis, de temps en temps, il a eu un vrai flingue. Il manque deux, trois éléments dans cette affaire. Mais enfin, ça ne fait rien. Il a été juge. Enfin, c'était très bien comme ça.
Pourquoi vous appelez papa ?
Parce que... Au 36 quai des Orfèvres, les chefs de service sont appelés patron.
Oui.
Alors, j'étais patron. Et puis, dans toutes les réunions de chefs de groupe... Je disais mes enfants. Ah, mes enfants, on va faire comme ça. Mes enfants, je crois que c'est mieux de faire comme ça, etc. Ouais. Alors de patron, c'est devenu papa. Ouais. Et les mecs m'appelaient papa. Un jour, je suis parti en vacances. Ouais. Je suis revenu une semaine après. Il y avait ma photo sur le palier du 36 avec papa revient. Oh, ça m'a fait rigoler.
Voilà. Et c'est à Versailles qu'on vous a donné le surnom d'amiral.
Oui, alors à Versailles, c'était autre chose parce que je leur disais quand je suis arrivé à Versailles, je leur disais, bon, ben voilà, on est tous sur un gros bateau. Moi, je suis à la barre, vous vous ramez. C'est un peu une galère, c'est sûr. Mais moi, je suis le patron, vous vous ramez. Donc, je suis devenu l'amiral.
On va malheureusement rester là, mais vraiment, j'invite ceux qui vous ont entendu à foncer sur ce livre des deux côtés du miroir que vous avez écrit avec Rémi Chancé. Livre qui paraît donc demain aux éditions du Cherche Midi. Comme ça, vous pourrez constater, là, je m'adresse à ceux qui vous ont écouté, aussi tout ce que vous dites sur l'affaire Estelle Mouzin, sur les dessous de cette arrestation du tueur de vieilles dames. Hein. En fait, c'était un portrait robot que vous aviez fait.
C'est même pas un portrait robot, c'est une description.
Description portée par motard dans tous les commissariats, et ce qui fait qu'un commissaire...
Christian Jacob, en venant de déjeuner, a croisé quelqu'un.
Un gars, il a lu la description le matin, il dit c'est lui.
Tout à fait, voilà.
Comme quoi, ça tient en fonction des circonstances, évidemment.
Absolument.
C'est pas vous qui allez me démentir.
C'était inspiré des circonstances.
Merci beaucoup, Jean-Marc Bloch. Merci infiniment. L'émission est terminée. On se retrouve dans quelques instants avec Flavie Flamand.
RTL, première radio de France.